Seigneur, merci parce que tu as parlé à nos cœurs pendant ce moment de chant, au travers de ce que Matthieu nous a partagé aussi. Et tu veux que nous t'écoutions. Te demandons que tu nous donnes l'intelligence spirituelle pour te comprendre, pour t'entendre. Que tu touches réellement nos cœurs, que ce soit plus que de la connaissance, mais que ce soit de la nourriture pour nos âmes, Seigneur. Qui nous permette de grandir en toi, de manifester ta vie autour de nous, d'être tes ambassadeurs partout, là où tu nous as placés, Seigneur. Merci pour la richesse de ta parole, de ta pensée, et parce que tu as voulu nous la révéler par ton esprit, Seigneur. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là jeudi soir, voilà, merci, c'est mieux. J'ai l'impression qu'on m'a sorti de la cave. Pour ceux qui étaient là jeudi soir, on a commencé de survoler le livre d'Exode. Et donc, de parler de Moïse, forcément. Et je vais lire juste quelques versets dans Exode, chapitre 2, de 1 à 4. « Or un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et cette femme conçut et enfanta un fils. Et voyant qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de joncs, l'enduisit de bitume et de poix. Ensuite, elle y mit l'enfant et le posa dans les roseaux sous la rive du fleuve. Et sa sœur se tint là à distance pour savoir ce qui lui arriverait. » Vous connaissez le contexte de l'histoire, hein ? Ils sont arrivés 70 et ils sont presque 3 millions. Ça s'appelle se multiplier en 3 siècles et demi. Ils ont eu des enfants, beaucoup. Et puis, maintenant, ils sont opprimés par les Égyptiens qui s'inquiètent de les voir devenir aussi puissants. Et on a décidé que tous les enfants mâles devaient être mis à mort. Et Moïse en fait partie, c'est un bébé qui vient de naître. Et je pense pour tous ceux qui ont des enfants, mais même pour ceux qui n'en ont pas, on peut facilement imaginer ce que c'est à la fois se réjouir parce qu'un enfant vient de naître, un fils, et puis de se dire qu'est-ce qui va lui arriver. Ça devait être quelque chose de vraiment terrible. Donc elle le cache pendant un moment et puis après elle va le mettre au fil de l'eau. Vous connaissez l'histoire. Et ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est le fait que Moïse était un problème, entre guillemets. C'était une bénédiction, que les enfants sont une bénédiction, mais c'était un grave problème. Et en même temps, parce que nous connaissons l'histoire jusqu'à la fin, Moïse était la solution. C'est intéressant cette idée-là, je trouve. C'est que, en fait, qui c'est qui allait pouvoir faire qu'on ne tue plus les petits garçons ? C'était Moïse. Mais Moïse était un petit garçon qui devait être tué. Aïe, c'est compliqué cette histoire. Mais ça nous parle, je trouve, beaucoup de la façon dont Dieu travaille. On a souvent l'impression que ce que nous vivons, c'est compliqué, c'est difficile, il y a cette situation, il y a cette chose-là, et puis si elle n'était pas là, si on pouvait la résoudre, ça irait. Et nous, on aimerait qu'elle soit pas là, tout simplement. Et Dieu nous dit, mais j'ai caché la solution dedans. Sauf que entre le moment où Moïse est laissé sur l'eau et le moment où il va délivrer son peuple, il se passe du temps, plus de 80 ans. 40 ans où il va penser qu'il peut faire quelque chose, on a vu ça jeudi soir. 40 ans où il va être découragé en pensant qu'il peut rien faire. Pour finalement, pendant 40 ans, être utilisé par Dieu, enfin. Parce qu'il a compris que lui, il pouvait plus le faire, quoi. Et ce cycle-là existe dans nos vies. Alors, j'espère pour nous que c'est pas avec 3 fois 40 ans, parce que, ça fait un peu long, quoi. On n'est pas sûr d'arriver au bout. Mais, ce principe-là, qu'on retrouve partout dans la parole de Dieu, dans beaucoup d'autres endroits, est ici. La solution est dedans. La solution est cachée à l'intérieur. C'est une des façons de travailler de Dieu. C'est une chose qu'il aime faire. Et dans notre société occidentale, nous sommes habitués par la culture, par l'éducation, par la façon dont on nous a formés depuis tout petit à l'école, à chercher les solutions à l'extérieur. Si je me sens pas bien dans mon âme, il faut que je change de voiture, que je change de maison, que j'aille faire du shopping, que je trouve un nouveau hobby, que je change de conjoint, que je sais pas, que j'ai des enfants. Il faut qu'il se passe quelque chose à l'extérieur pour donner du sens à l'intérieur. Et on sait que malheureusement, alors ces choses peuvent être bonnes, hein, changer de travail c'est super, pas changer de conjoint, mais avoir d'autres enfants ça peut être super, aller faire du shopping, il n'y a rien de mal, changer sa maison, pourquoi pas. Mais on doit savoir que ça ne va pas donner du sens à nos vies. Ça va nous faire oublier un petit moment que, hein. On appelle ça la sublimation. C'est le même principe que boire ou que se droguer ou que n'importe quoi d'autre. J'oublie pendant un temps parce que j'active les choses à l'extérieur, mais le vide à l'intérieur est toujours le même. Hein. Et pour les chrétiens, c'est le même piège. Ça peut être l'activité. Hein. Je m'engage dans une autre réunion, une autre rencontre. Je fais partie de la chorale et du machin là-bas et du stand de livres et du club d'évangélisation. Et j'ai l'impression, d'une part, de faire plaisir à Dieu parce que je fais beaucoup pour lui, et d'autre part, ben, j'ai pas le temps de réfléchir. Donc ça va, mais ça va pas. L'extérieur peut pas résoudre les problèmes qui sont à l'intérieur. De notre côté, on dirait de l'autre côté de notre planète, il y a une autre culture. La solution se trouve à l'intérieur. Et on a tenté de l'importer d'ailleurs, hein, dans nos pays matérialistes, avec beaucoup de pratiques où il faut rechercher le bien qui est en nous, etc., etc. Chercher la solution dedans. Le problème, c'est que chercher quelque chose là où il n'y a rien, on va avoir du mal à trouver. La pensée orientale n'a pas tort, parce qu'en fait, elle est consciente du vide qu'il y a, et le vide nous parle du fait qu'il y avait une présence. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est le dessein par l'absence. Comme cette citation qui dit, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Hein? C'est la même chose. Parce que justement, dans cette culture-là, on apprend à faire taire les bruits de l'extérieur et qu'on voit qu'il y a du silence et du vide à l'intérieur, on cherche la solution là. Mais à cause de notre histoire, à cause de ce qui s'est passé bien longtemps avant qu'on naisse, oui, un vide. Ce vide nous parle d'une présence qui devrait être là, mais c'est pas là non plus qu'on va trouver des solutions. Et c'est pour ça que l'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est que la solution n'est pas à l'extérieur. Elle est bien à l'intérieur, mais il faut que l'intérieur soit rempli. Ce qui se passe à la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle vie en nous qui est seule capable de nous satisfaire, de nous remplir. Et notre vie chrétienne va consister à nourrir, développer, écouter cette vie-là. Cette semaine, j'ai remis en forme par écrit pour le Ta Genèse, parce qu'il fallait que je recommence une nouvelle série, la parabole que je vous ai déjà racontée plusieurs fois du cochon et du chat. Vous connaissez la parabole du cochon et du chat, hein? Ou les deux natures du croyant. Hein? Et puis c'est bah, deux ados qui ont chacun un animal de compagnie. Puis il y en a un qui a un cochon, ça se fait, hein. Georges Clooney en avait un. Il est mort en 2007, je le sais, je suis renseigné. Et puis, essayer d'éduquer un cochon pour qu'il devienne propre. Cause perdue. Hein. Vous le brossez, vous le nettoyez, vous le parfumez, vous y mettez un ruban rose, ce que vous voulez. Mais s'il a de la liberté, s'il peut faire ce qu'il veut, il va gratter la pelouse, il va retourner se rouler dedans, il va chercher de la boue, des feuilles et autres. Plus y affinité. C'est son élément, c'est sa nature, c'est même pas de la méchanceté chez lui, bien sûr, hein, c'est sa nature, il est fait comme ça, quoi. Par contre, si vous avez un chat, qui, tout le monde, bah, beaucoup de gens ont des chats ici, est-ce que vous avez dû éduquer vos chats pour être propres, à part au début qu'ils trouvent sa caisse, mais je veux dire, un chat fait sa toilette tout seul. Moi, je vois, j'ai un chien, il y a plein de chats autour de chez moi, mon chien, il marche, il y a des flaques de boue, plouf, plouf, il marche dedans. Il était blanc, il est plus. Les chats, ils sautent d'un côté à l'autre. Hein, à peine il y a une éclaboussure, ils font la toilette. C'est leur nature. Pour nous, en tant que croyants, enfin, en tant qu'êtres humains plutôt, nous sommes tous nés avec la nature du cochon en nous. Je ne traite personne de cochon, mais nous avons tous cette nature en nous qui fait que le mal nous attire, ouais, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est sale, on aime ça. C'est un peu comme quand on doit faire un régime, quoi. Tout ce qui est pas bon, c'est ce qu'on a envie, quoi. Hein. Les frites bien grasses, avec beaucoup de ketchup, et de la sauce dessus, et plein de pain blanc, avec du beurre en plus, et de la crème. Hein. Ça nous attire. Hein. Et puis les magnifiques haricots verts, les carottes en tranches, les feuilles de salade, moins. Hein. Mais le chat, par contre, est propre naturellement. Hein. Et Dieu a mis en nous sa nature. Et cette nature-là, elle aime les choses de Dieu. L'apôtre Jean, dans son épître, nous dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. » Alors on se dit « Ouais, mais attends, ça parle de qui ? Parce que moi, je pêche encore. » Oui, parce que nous, nous vivons toujours. Hein, y a de la colocation chez nous. Il y a le cochon et le chat qui partagent un même appartement chez nous, notre âme. Et des fois, c'est l'un qui s'exprime, des fois, c'est l'autre. Des fois, c'est l'un qui domine, des fois, c'est l'autre. Mais la solution pour trouver du sens à nos vies, pour savoir où on va aller, dans quelle direction, pour savoir, elle n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas en réformant l'Égypte, ça viendra après. Mais c'est en cherchant en nous, mais pas en nous, juste en nous, le bien qu'il pourrait y avoir. En cherchant Christ en nous. L'apôtre Paul disait, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. J'ai beaucoup aimé comme Émilie et Mathieu nous ont conduit dans la première partie de ce rassemblement. On ne vient pas ici juste pour venir ici, pour se retrouver, pour remplir la salle, même si on a du plaisir à voir les nouvelles photos que Catherine a mises sur le mur. Mais on ne peut pas être venu que pour ça. On est venu parce qu'on prend ce moment, c'est une sorte de discipline, mais juste pour s'arrêter et au lieu de chercher partout ailleurs, dehors, Christ vit en nous, en chacun d'entre nous. Et quand on se rassemble, en plus, c'est super parce que Christ vit dans chacun d'entre vous. Et on amène ça ensemble pour le partager. Et là, au lieu de fuir, on va devoir apprendre à rester tranquille. Naturellement, nous sommes souvent comparés avec des moutons. Hein, Jésus dit, bon berger, nous sommes les moutons. Et vous savez, les moutons, c'est un animal qui est quand même particulier parce qu'il n'a pratiquement aucun moyen de défense. Ça ne grimpe pas aux arbres, ça court, mais pas si vite que ça. Ça escalade, mais pas aussi bien que les chèvres. Ça a des dents, mais qui ne peuvent pas mordre. Ça n'a pas de griffes. Qu'est-ce que ça peut faire un mouton pour se protéger ? Rien. Hein, ça tombe à l'eau. S'il n'a pas été tendu récemment, il se noie. Et en plus de ça, c'est pas très très malin, quoi. C'est pour ça que nous sommes comparés aux moutons. Vous avez vu, c'est la matinée animalière. Après vous avoir traité de cochons, je nous compare à des moutons. Il y a du chat en nous, quand même. Hein, voilà. Il y a du chat en nous. Oui, non, j'avais fait un mauvais... Parce que Dieu est venu parmi nous, c'est pour ça qu'il y a des morts. Excusez-moi. On revient, on s'égare, non. Mais réellement, hein, le mouton qui peut rien faire, il doit apprendre à se confier au berger, sinon il s'en sort pas. Et puis s'il s'enfuit, ben, il est encore plus en danger. Nous devons accepter que, oui, nous n'avons pas de défense naturelle contre tout, mais il y a un berger, il a une solution, et la solution se trouve là, au milieu du problème. Il y a un magnifique verset dans le Nouveau Testament, on le cite souvent, 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Quand Moïse est né, il y avait un problème. Les enfants devaient être tués. Mais la solution était déjà implantée dedans. Simplement, Dieu, en général, ne donne jamais les solutions toutes faites. Il les donne la plupart du temps. Il peut le faire, il le fait des fois, hein, mais la plupart du temps, il les donne sous forme de semences. Parce que Dieu aime pas travailler avec des choses mortes. Il travaille toujours avec des choses vivantes. Hein. Dieu aurait pu faire que Jésus naisse à 30 ans près au ministère. Miracle pour miracle, c'est pas du tout plus compliqué de faire naître un adulte à 30 ans que de faire naître un bébé dans le ventre d'une femme sans qu'elle ait de relation avec un homme. Ça change rien au niveau du miracle. Mais il a décidé que la solution allait venir. Hop, Marie va avoir 9 mois à attendre comme tout le monde. Il a pas raccourci. Elle a pas été enceinte 3 mois, 2 mois, quoi, pour gagner du temps. Il est pas né tout près. C'était pas une réponse lyophilisée, on la sort du sachet, on la verse dans l'eau, elle est prête. Non, c'était une petite semence. Et puis il est né comme tout le monde, il a appris à marcher. Je vous passe les étapes. Hein. Et il a tout appris sans raccourci dans le temps. Et pendant ce temps-là, on se demandait où était la solution. Elle était là, et personne ne la voyait, bien sûr. Les gens dans le village de Joseph, de Marie, de... c'était pas une solution, c'était à la rigueur un problème, c'était un peu la honte, parce que, oui, Marie, vous savez, celle que, on ne sait pas trop d'où vient son enfant, un colporteur, le facteur, on ne sait pas trop. Ouais, Joseph, il est gentil, un peu naïf. Ça paraît pas une solution à quoi que ce soit, cette histoire-là, quoi. Hein. Mais c'était la solution. Et puis après, il meurt en plus. Alors, tout ça pour qu'il meure, franchement. Au niveau efficacité, encore une fois, hein. J'aime comme Dieu a l'air de ne pas être efficace la plupart du temps. Quoi. Et en fait, il l'est réellement. Jésus dit à ses disciples, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais voici, il est au milieu de vous, et même, il est en vous. Il y avait des royaumes visibles à cette époque-là, il y avait les envahisseurs qui étaient là, les Romains, il y avait le souvenir du grand royaume avec David et Salomon, il y avait ces choses-là. On veut des choses qui se voient. Et Jésus dit, mon Père et moi, nous travaillons autrement. On travaille par infiltration. On travaille dans la clandestinité. On vient dans le cœur d'un être humain et hop, on met quelque chose. Une petite semence minuscule, hein. Comme une graine de baobab qui va donner un des plus grands arbres qui existent. Et puis voilà, elle est là, et puis elle va prendre son temps. Elle va prendre son temps. On a un peu parlé de ça jeudi, mais on a l'impression que tout va plus vite aujourd'hui. La technique, la technologie, les moyens permettent de faire les choses plus vite. Mais peu importe, il n'y a pas de raccourci au temps. Il n'y en a pas. Gagner du temps, mais pourquoi faire? Mais Dieu travaille tranquillement, hein, tranquillement. Et si vous regardiez faire un grand, grand survol de l'Ancien Testament, là, vraiment, là, comme ça, hein, c'est toujours la même chose que Dieu dit à son peuple. Restez tranquille et faites-moi confiance. Combien de fois il y a cet appel, hein, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, nous monterons sur des chevaux, nous fuirons en Égypte, on fera ça, on aura un roi comme tout le monde, on va faire la guerre, on va faire ci, on va faire ça. Et Dieu dit, vous ne pourriez pas rester tranquille et me laisser m'occuper de vous. Et en fait, Dieu passe son temps à essayer de nous calmer. Arrête de faire des choses, même pour moi. Jacob, une vie entière à magouiller, à faire des choses, jusqu'à ce que Dieu dise, bon, avec un énergumène pareil, la seule façon de faire quelque chose, c'est de lui déboîter la hanche. Voilà. Maintenant, il ne peut plus courir partout. Ça y est, tu vas t'arrêter de t'agiter. Et là, et encore, ça va prendre du temps. Hein. Mais on est comme ça, c'est notre nature. Parce qu'on cherche toujours la solution. Hein. Si l'église était plus grande, si le pasteur était mieux, s'il prêchait mieux, s'il avait des cheveux, s'il avait une cravate, si le mur n'était pas vert, si la croix n'était pas derrière, si elle n'était pas blanche, si elle était noire, si les champs étaient autrement, si. Bon, c'est même pas des choses qui se disent ici, on n'a pas ces soucis-là, mais... Si ou quand, et Dieu dit, maintenant, c'est maintenant le jour du salut. Hein. Et regardez, c'est pas nouveau, regardez ce que Moïse, toujours le même, mais longtemps après, va dire, là c'est plus un petit bébé, dans Deutéronome 30, verset 11. Moïse dit, oui, les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous, et vous pouvez les atteindre. Ils ne sont pas au ciel, sinon on dirait qui va monter au ciel pour aller les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir? Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, sinon on dirait qui traversera les mers pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions les obéir? Oui, la parole du Seigneur est tout près de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Ainsi, vous pourrez lui obéir. Elle n'est pas loin. Elle est tout près de vous. Elle est en vous. Mais elle est en vous parce que Dieu l'a mise, pas parce qu'elle était en nous, parce qu'on est né bon ou parce qu'on a fait quelque chose. Hein. Cette parole implantée en nous qui a le pouvoir de sauver nos âmes. Et puis on doit juste apprendre à être des jardiniers patients, tranquilles, qui cultivons cette vie. En lui faisant confiance. La solution est là. Avec la difficulté, Dieu a déjà mis à l'intérieur... le moyen d'en sortir. pas de la faire disparaître, afin que nous puissions marcher en la portant sans qu'elle nous écrase. Ça serait une traduction assez littérale, assez bonne. Hein. Au moment même où l'épreuve vous tombe dessus, Dieu a déjà mis l'antidote dedans, afin que vous puissiez la porter sans qu'elle vous écrase et aller jusqu'au point où elle vous sera enlevée. Dans certains cas, le point où nous sera enlevé, c'est le moment où on quittera cette terre. Hein. Mais si c'est le cas, on aura la force pour le porter jusqu'au bout. Et là, il y a deux conséquences directes, pratiques pour nos vies. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Ça ne parle pas du fait de ne pas planifier ou de ne pas remplir un agenda, ça n'a rien à voir. Ça. Hein? Mais ne pas s'inquiéter du lendemain, c'est simplement le fait que parce que Dieu vit au présent et qu'il a quelque chose pour nous maintenant, on ne reçoit pas aujourd'hui la provision du demain. Si je me fais du souci pour demain, c'est terrible parce que je n'ai pas de réponse. Seigneur, qu'est-ce que je ferai demain? Dieu ne me répond pas, qu'est-ce que je ferai demain? Dieu n'est pas dans demain. Demain n'est pas là. On ne sait pas si demain, est-ce qu'on va arriver à demain? Est-ce qu'il y aura un demain? Je ne sais rien. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu dit, ah mais je suis là. Hein. Dieu a pas dit, Jésus n'a pas dit avant de partir, je serai avec vous demain jusqu'à la fin du monde. Non, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Dans le présent, Dieu est là. Et nous, on est toujours en train de regarder derrière ou dans l'impatience de demain. Et puis, on rate le seul endroit où Dieu se trouve aujourd'hui et maintenant, là. Il est ici, la solution est là, pour aujourd'hui. Mais demain, ben demain, ça, quand on y sera, ça ne sera plus demain, ça sera aujourd'hui. Et après-demain, ça ne sera pas après-demain, ça sera aujourd'hui quand on y sera. Et puis hier, c'est pas du passé, c'est juste la collection de mes aujourd'hui et de mes maintenant. Alors je peux les regarder pour voir la fidélité de Dieu. Donc quand on se projette, mais je tiendrai pas 10 ans comme ça. Non, mais ça c'est une fausse façon de penser. Est-ce que tu as aujourd'hui la grâce pour cette journée? Oui, mais je tiendrai pas un jour de plus. Ça suffit. Vis jusqu'à ce soir. Demain matin, tu recevras ce qu'il faut pour la journée. Hein? On a l'exemple de la manne. Qui était comme ça, ceux qui voulaient faire des provisions, les petits malins, les vers s'y sont mis dedans. Urk, c'est dégueulasse. Non, à part pour le sabbat, il y avait, hein, Dieu faisait aussi des, comme ça, des petits trucs. Mais on a besoin d'apprendre ça. Arrêter de courir, arrêter de chercher dehors, arrêter de chercher loin. La solution est dedans. Et c'est aussi pour ça qu'on doit jamais, on doit avoir de la compassion pour les autres, hein. Mais se mettre à la place des autres. Je vois des gens qui passent par une épreuve et là je panique parce que je me dis si ça m'arrivait à moi, je ne le supporterais pas. Mais tu ne peux pas parler comme ça, tu n'y es pas dedans. Alors bien sûr, oui, on prie pour ces personnes, on les aide si on peut, on a de la compassion, on prie avec eux, on pleure avec eux, mais il ne faut pas transposer ça, mais moi je n'y arriverai pas. Non. Si Dieu prévoit que tu passes par là, tu y arriveras. Parce qu'avec l'épreuve au présent, quand tu y seras, il y aura le moyen pour toi d'en sortir. Et pour le moment, tu n'y es pas. Alors vis avec ce que tu as. Hein. Vis avec ta réalité et trouve Dieu là où tu es, aujourd'hui, maintenant, dans ta situation. Et puis, tu verras que jour après jour, on va arriver au bout. On va dire, oh, déjà, on est là. Oh, hein, on va rencontrer Christ. Déjà, on est à la maison. Ben oui. Un jour après l'autre, comme quand on fait des longues randonnées en montagne, c'est toujours un pas après l'autre. Il n'y a pas possible d'en faire deux d'un coup. Et on avance tranquillement comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est dedans peut être plus grand que l'extérieur. Ça, c'est notre mystère que j'aime beaucoup avec Dieu. Regardez, Jésus naît dans une étable, et puis on a une petite cabane, une petite cahute en bois, et celui qui est dedans est plus grand que tout, mais il est dedans. Et ça, c'est la logique de Dieu. C'est caché à l'intérieur et en même temps, ce qui est dedans est plus grand que ce qui est dehors. Ça marche comment? Je ne sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne. Et c'est pareil pour nous. Christ en nous. On a parlé dans l'Exode du tabernacle, cette invention extraordinaire du premier portable, le premier temple portable connecté en toute occasion. C'était de la technologie de haute pointe. C'est pour ça que d'ailleurs Moïse écrivait sur des tablettes. Il n'y a rien de nouveau de nos jours. Hein. Vous croyez qu'au ciel, ils ont attendu quelques milliers d'années pour inventer les tablettes tactiles? Non, non, ils avaient déjà ça. Hein. C'est pour ça que sur deux tablettes de marbre, il y avait autant de choses écrites. Parce que... pour passer à la page d'après. Mais Dieu écrit ces choses et les grave, et puis il nous les donne et il nous les laisse. Mais nous avançons comme ça, tranquillement, un jour après l'autre avec lui. Et puis, y a ce mystère, Christ en nous, mais comment Dieu qui a créé le monde peut vivre en moi? Je suis tout petit, je ne suis pas tout petit, mais si, par rapport à l'univers, oui. Hein. Et puis, c'est le mystère de Dieu. Il est là, caché en nous, c'est son royaume. C'est ça qui est extraordinaire. Et personne ne peut nous le prendre. On ne peut pas nous l'enlever, on ne peut pas nous le voler, quoi qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Alors oui, il y a des moments où on ne voit plus la lumière, on ne comprend pas, c'est compliqué, c'est difficile. Mais on dit, hein, encore aujourd'hui, Dieu est là et il sera fidèle. Et puis, la solution, elle est là, je ne la vois pas, mais je ne vais pas m'agiter à l'extérieur, je ne vais pas essayer de faire le vide en moi, mais je vais entretenir, développer cette vie que Dieu a mis en moi. Et puis, on va avancer. C'est pour ça que Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Non. Ne vous inquiétez pas du lendemain, il aura soin de lui-même. Mais pour aujourd'hui, Dieu est là, Dieu est présent. Et on veut déguster sa présence. Seigneur, merci pour ta vie en nous. Merci pour cette espérance. Merci pour les solutions que tu as cachées dans ce qui nous apparaît aujourd'hui comme des épreuves, comme des difficultés. Parce que c'est là-dedans que tu te manifestes. Merci parce que tu te manifestes dans notre faiblesse, dans notre incapacité. Et tu te glorifies. Apprends-nous à rester tranquille, à ne pas fuir, à ne pas vivre dans l'illusion, mais à vivre dans la réalité, faire face au vide qui est en nous pour te laisser le remplir et que tu prennes toujours plus de place dans nos vies. Merci pour ce moment et que tu puisses vraiment continuer de nous enrichir et de nous guider, Seigneur Dieu.